nanotechnologie. Je voudrais commencer par remercier Terry Sheen qui a accepté de venir parler dans notre séminaire. Et avant de lui donner la parole et de donner la parole à Sacha avant, je voudrais revenir très brièvement sur les principaux points de notre dernière séance, de notre dernier séminaire, en particulier pour ceux qui n'ont pas pu assister à cette séance. Je résumerai les principaux points de cette dernière séance de la manière suivante. C'est que, bon, premièrement, je reviens un petit peu sur l'esprit général de ce séminaire, qui est de travailler sur la représentation ou les représentations de ce qu'il est convenu d'appeler, évidemment c'est très problématique, hein, le nanomonde. Et nous avons choisi la dernière fois de donner la parole à des intervenants qui ont eux-mêmes choisi d'aborder la question, hein, celle du nanomonde, à partir des images qui circulent sur le net. Et donc qui ont fait, au travers d'un film qu'on a vu, mais aussi au travers d'une communication, qui ont fait toute une analyse sur la nature des images qui circulent. Et je voudrais résumer très brièvement, bien sûr, vous en doutez, l'ensemble des interventions et de la discussion qui a suivi en 6 points qui me paraissent très importants. Premièrement, c'est que ce qui apparaît, c'est un brouillage très fort dans les catégories classiques de l'analyse sémiologique. Hein, les catégories que Pajon a rappelées chez Peirce en particulier, donc entre 3 types d'images. Images indicielles, donc faisant référence à une réalité extérieure, images iconiques, fondées sur une ressemblance entre l'image et ce qui est représenté, et images symboliques, qui sont de nature plus autoréférentielle, pour reprendre l'expression de Pajon. Donc cette partition, hein, des différents types d'images est complètement brouillée dans cette imagerie qui circule sur le net. On ne sait plus trop si on a affaire à des images indicielles, à des images iconiques, à des images symboliques. Certaines images se prétendent ou semblent donner à voir une réalité extérieure, donc avoir une fonction indicielle, alors qu'en réalité, elles représentent la réalité physique de manière purement fantastique et sont plutôt symboliques. Donc, premier point très important, me semble-t-il, c'est ce brouillage des catégories de l'analyse sémiologique. Deuxième point important, c'est la prédominance des images à caractère autoréférentiel. Pajon a beaucoup insisté là-dessus, donc ces images qui ne représentent qu'elles-mêmes en définitive et qui donnent encore une fois une vision tout à fait fantastique de la réalité physique à laquelle parfois elles prétendent pourtant renvoyer. Troisième point, c'est que cette inflation d'images, cette bulle communicationnelle qui ne cesse d'augmenter et qui paraît complètement anarchique, en réalité présente un certain nombre de structures, a une certaine organisation et en particulier une organisation fondée sur l'exploitation de ressources narratives, donc empruntées à la science-fiction, mais aussi à l'univers des mythes. Donc c'est une bulle, c'est une inflation qui n'est pas du tout sans structure, qui au contraire présente un certain nombre de régularités qu'on peut analyser avec les outils de l'analyse sémiologique. Et là je crois que c'est très important de produire un discours sur ce point. Quatrièmement, ce qui est apparu fondamental aussi, c'est l'émergence d'un nouveau rapport à l'imaginaire en raison du fait que les images dont il est question sont avant tout des images de synthèse. Et que dans la manière de traiter ces images, dans la manière de faire fonctionner ces représentations du nanomonde, de les mêler, de les assembler, etc., ce qui apparaît ou se manifeste, c'est ce que Pajon appelait un horizon d'attente sous-jacent en quelque sorte, et qui consiste qui peut se résumer dans l'intention suivante, qui est de manipuler la matière comme on manipule des images de synthèse. Alors pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez de son analyse en particulier très intéressante de Drexler, et où au fond effectivement la matière est représentée comme quelque chose qu'on peut manipuler avec la même facilité entre guillemets que l'on a quand on manipule des images de synthèse. Donc ça c'était le quatrième point, la spécificité de cet imaginaire quand il fonctionne ou quand il met au travail une dynamique portant sur des images de synthèse. Cinquième point, c'est une transformation très profonde dans l'activité humaine de fabrication d'objets telle qu'elle est donnée à voir au travers de ces images, de cet imaginaire qui circule sur le net. Et je voudrais juste rappeler la comparaison, en tout cas le rapprochement que Pajon a fait entre ce qu'il a appelé le premier nanomonde, qui est donc ce nanomonde donné à voir sur le net, ce nanomonde qui est ce monde de l'invisible auquel on cherche à avoir accès, et ce qu'il a appelé le deuxième nanomonde, qui n'a rien à voir avec l'échelle nano, mais qui pour lui a la même structure que le nanomonde de l'imaginaire du net. Et ce deuxième nanomonde, il en a trouvé une illustration saisissante dans un jeu en ligne, un jeu vidéo, je crois qu'on peut dire ça comme ça, qui s'appelle Second Life. Donc Second Life, ça n'est pas du tout de la nanotechnologie, stricto sensu, mais il a montré de manière extrêmement précise que l'horizon d'attente, ce qu'il appelait l'horizon d'attente des nanotechnologies, structurait aussi ce monde de Second Life. Et en particulier, la représentation de la fabrication d'objets dans ce deuxième nanomonde, Second Life, elle apparaît complètement exténuée. On manipule des objets avec une facilité déconcertante, comme si la matière était sans inertie, comme si on manipulait la matière comme on manipule des images de synthèse, sans inertie, sans cette confrontation de l'homme à la matière qui caractérise justement le geste ou l'acte de fabrication d'objets techniques. Le sixième point, et j'en resterai là avant de donner la parole à Sacha, qui me paraît très important, c'est que, et les deux intervenants ont insisté là-dessus, c'est que il faut bien faire la différence entre cette imagerie qui circule sur le net et les discours des scientifiques. Les discours des scientifiques qui ne correspondent pas forcément, loin de là, à ces discours d'accompagnement des nanotechnologies, à tel point que c'est un peu l'hypothèse qu'on peut explorer. Est-ce qu'il n'y aurait pas un troisième nanomonde, pour aller un petit peu dans le sens de Pageon, à savoir ce monde des objets qu'on fabrique en laboratoire, des images qui sont produites par des instruments de laboratoire dont il n'est pas du tout sûr qu'elles soient autoréférentielles, bien sûr. Il y a un moment où il faut bien que ces images renvoient à une réalité extérieure. Je crois que c'est peut-être un petit peu cela qu'il est question d'aborder aujourd'hui, la question de ces images qui ne rentrent pas tout à fait dans les catégories de celles qui circulent sur le net. Voilà, je vais donner la parole à Sacha qui va présenter un peu plus en détail Terrichine, et ensuite Terrichine interviendra donc sur instrumentation, image, intelligibilité, communication, nanosciences.
Merci Xavier. Donc, je pense que ce qu'on va faire aujourd'hui, ce sera de rapporter ces images qui circulent aux instruments malgré tout qui les produisent. Et ce qui est remarquable dans les nanotechnologies, c'est qu'un nombre de disciplines extrêmement diverses, la biologie, la physique, la chimie, l'électronique, la science des matériaux et bien d'autres, partagent malgré tout et font circuler soit des instruments, soit des images, sans pour autant se confondre. Donc, on parle beaucoup de convergence, en tout cas, il y a une convergence très nette autour de certains instruments. Et par exemple, je pense qu'on parlera du STM, le microscope à effet de tunnel, autour de cet instrument. Il y a vraiment une rencontre, par exemple, des physiciens du solide et des surfaces, et des chimistes qui synthétisent des molécules. Alors, il y a également des convergences sur des applications, comme vous pensez aux biopuces, mais ce type de convergence se fait sur des applications en aval, de manière beaucoup plus planifiée et normale, en quelque sorte. Donc on voit bien, avec les nanosciences, qu'on n'a pas affaire à une nouvelle science unifiée, et personne ne dit sérieusement que les sciences convergent. Mais ce qui s'appelle nanotechnologie, c'est aussi une prise de conscience, à mon avis, du rôle des instruments dans la circulation des savoirs et dans l'émergence de nouvelles disciplines. Les instruments multiplient les interfaces, les rencontres entre des scientifiques issus de contextes différents, mais aussi accélèrent la multiplication des disciplines. Donc tout se passe comme si l'instrumentation avait un rôle de convergence, mais aussi de divergence. Par exemple, on peut entendre dire des chercheurs en nanobiotechnologie, on peut les entendre dire qu'ils ne vont pas produire une nouvelle biologie, n'ont pas cette prétention-là, ils vont accélérer la multiplication des types de biologie. Donc l'emphase qui est souvent mise sur l'aspect convergence correspond aussi à une volonté de constamment rééquilibrer l'aspect divergence. Et en même temps, l'instrumentation est porteuse d'une intelligibilité qui est caractérisée par le fait qu'elle circule, et qu'elle circule non pas seulement entre les différentes disciplines scientifiques, mais que les images, par exemple, sortent du champ scientifique et tombent dans les médias, dans l'art, dans les sciences humaines, dans la science-fiction, etc. Donc l'instrumentation est à la fois porteuse d'une intelligibilité partagée et de formes de communication. Et c'est ce que Terichine va nous permettre d'éclaircir aujourd'hui. Alors je vais rapidement présenter Terry. Donc, il est directeur de recherche au CNRS, au groupe d'études des méthodes de l'analyse sociologique. Et Terry est l'auteur d'une hypothèse importante sur la structuration sociale et cognitive des sciences. Il a porté ses études sur les groupes de recherche technico-instrumentales. Alors de quoi s'agit-il ? Les chercheurs technico-instrumentaux n'étudient pas les lois de la nature, mais les lois qui président à la conception et au fonctionnement des instruments. Ce type de recherche relève de ce que Terry appelle un régime transversal de production et de diffusion de la science, qui se distingue des autres régimes qui sont disciplinaires, utilitaires et transitaires. Tu m'arrêtes si j'ai dit la bêtise. Tout en permettant à ces trois régimes de production scientifique de s'articuler, voire d'engager des dynamiques de convergence. Et ce régime de production scientifique donc transverse s'appuie sur la production d'instruments génériques. C'est à cela qu'on le reconnaît. Alors qu'est-ce qu'un instrument générique ? C'est premièrement un instrument qui comporte un concept instrumental décontextualisé. Donc ça veut dire qu'il n'est pas fait sur mesure pour un usage particulier. Deuxièmement, l'instrument générique fournit une métrologie, c'est-à-dire un protocole de mesure. Et enfin, il se diffuse dans les interstices entre les disciplines. Et c'est son caractère décontextualisé qui lui permet d'être réapproprié, recontextualisé dans des régions différentes du champ scientifique. Dans cette dynamique de décontextualisation, recontextualisation, se développe une lingua franca, c'est-à-dire un jargon commun qui mélange les concepts instrumentaux et les différents langages disciplinaires, pouvant donner lieu à des créoles, c'est-à-dire à des vraies langues qui sont constituées dans le cadre d'une discipline scientifique spécifique, et également à des standards communs. Ce régime transversal de recherche technologique est pour Terichine porteuse d'une forme d'universalité pratique. Voilà, donc Terichine, c'est à toi.
Tu décris mieux le modèle que moi. Donc c'est extrêmement... ce que je cherche à faire en partie au moins, c'est de problématiser l'idée même de nanosciences et technologies. Et je suis confronté par cette nécessité par la nature même de mes recherches en cours. Mes recherches portent sur les composantes intellectuelles qui caractériseraient les travaux de recherche en nanosciences et nanotechnologie, dont j'ai développé un questionnaire qui propose les composantes bien spécifiques, simulation, théorisation, ingénierie, technologie, échantillage, expérimentation, mettre bon. La question que je me pose, c'est dans quelle mesure est-ce que les composantes intellectuelles au sein de la nanoscience et technologie divergent des composantes utilisées dans les disciplines qui refusent le label, la caractérisation de nanoscience et technologie. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qu'on peut trouver dans les démarches intellectuelles, nanosciences et nanotechnologies? Donc, la tâche n'est pas si évidente que ça, même sur le plan de la méthodologie. Vous allez voir. Et ce qui me gêne extraordinairement ici. Donc, le questionnaire m'oblige d'identifier les personnes qui s'identifient de manière forte avec nanosciences et technologies. C'est-à-dire que les gens qui publient régulièrement dans les revues les plus importantes de cette matrice intellectuelle. Et aussi, la nécessité de choisir un deuxième groupe, les gens qui se positionnent d'une manière, sur une échelle de 0 à 3, à niveau 3 ou 2. OK. Là, on a déjà presque 200 personnes là, qui participent à notre projet. Mais plus récemment, donc, on a commencé à travailler sur les gens qui ne publient pas et qui répondent « Non, on n'est pas nanoscientifique. » Ça, c'est le défi. À ma grande étonnement, la semaine dernière, bon, on a essayé les questionnaires téléphoniques, comme on a fait avec la première campagne. Ça n'a pas bien marché. Tout le monde s'identifiait. La quasi-totalité de 100 personnes, donc on a décidé de faire ça par la mail. La semaine dernière, on a envoyé 1700 questionnaires. On a 12 réponses. 12 personnes, c'est-à-dire la quasi-totalité des personnes qui n'ont même pas publié ou peu publié dans le domaine de nanosciences et nanotechnologie, s'identifient avec la nanoscience et la nanotechnologie. Il y avait déjà 6 mois, le CNRS a repéré 3800 chercheurs d'une population de 7000 candidats possibles qui se déclarent nanoscientifiques ou nanotechnologues. Il est intéressant à remarquer que si la courbe de la production des articles en nanosciences et nanotechnologie continue aux mêmes cadences que depuis les derniers 5 ans, en 9 ans, la quasi-totalité de tous les articles publiés du monde dans la recherche et l'ingénierie sera en nanosciences et nanotechnologie. Donc, la capacité discriminatoire, la capacité de différencier les différents groupes sur un plan pratique, sur un plan du marché, sur un plan d'identification professionnelle, est extrêmement, extrêmement compliqué. Comment voulez-vous, dans ce cas, que je parle spécifiquement des caractéristiques de nanosciences et de nanotechnologie? Il y a un biais. Il y a peut-être un biais, quand même. Comme Sacha vient d'indiquer, un trait relativement en commun de ces différentes populations, mais on va voir là qu'il y a un biais aussi, c'est certaines caractéristiques de l'instrumentation employée. Et même ça est compliqué. Et d'autre part, comme on a déjà entendu, l'équilibre entre différentes catégories d'images semble peut-être un peu particulier. C'est-à-dire que le rapport ou les caractéristiques d'images qu'on peut associer à l'intelligibilité ou à la communication pourraient afficher des caractéristiques intéressantes. Quand on parle de nanosciences et nanotechnologie, on parle depuis quand? Pour moi, qui travaille beaucoup avec les techniques de la bibliométrie, la date, c'est à peu près 1990. Depuis 1990, on voit une multiplication de nombre d'articles dans le domaine à peu près tous les 19 mois. Une multiplication par 2 ou 3. Il y avait les articles précédents depuis 1974 qui portent le vocabulaire nanoscience ou nanotechnologie ou nano, mais ils sont très 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 peu nombreux. Le vocabulaire nanotechnologie est né en 1974. Mais comme j'ai indiqué, les travaux qui portent ce projet étaient minimes. Attaché à l'idée du nanomonde, bien entendu, c'est la notion de moteur moléculaire qui initialement, de Drexler, qui initialement n'était pas lié aux nanosciences et nanotechnologies. Au milieu des années 80, là, on commence de voir le développement d'une technologie de nanosciences et nanotechnologie. On voit la mise en place de dispositifs instrumentaux qui permet à un nombre de chercheurs croissant dans les domaines différents à s'investir dans le champ. Bon, il s'agit bien entendu des travaux développés à IBM sur le microscopie à effet tunnel. Et comme Sacha a indiqué, cette recherche-là était typiquement une recherche technico-instrumentale qui ne visait aucunement le monde qu'on pourrait qualifier de nano. IBM avait demandé à un certain nombre de ses spécialistes en instrumentation de travailler sur la présence ou absence de formes microniques. L'échelle de micron n'est pas la nano-échelle. C'était pour résoudre les problèmes bien étroits et définis dans le contrôle des composantes des semi-conducteurs. Ce projet a connu un sort un peu compliqué, mais ce qui est intéressant pour nous est que tout en travaillant dans une ambiance secrète, les chercheurs passionnés par les lois de l'instrumentation ont développé la machine qui est au cœur d'une bonne partie de la recherche d'aujourd'hui et qui rend la nano-recherche possible, diversifiée et presque universelle. Donc c'est l'instrument que j'ai mentionné. Un instrument qui ressemble, bon, moi, quand j'y pense, je pense un petit peu à le braille. Parce que ce que l'instrument permet de voir, entre guillemets, c'est les aspérités, comme le braille, juste comme ça. On voit un fond qui est plat, qui est ponctué par les tout petits points. Les points et l'importance de ces points ne sont pas leur caractérisation. Ne sont pas forcément leur propriété spécifique, mais leur absence, leur présence et leur relation entre eux. Donc, de 84 à, mettons, à peu près 90, on voit la production de nombreux instruments liés à un dispositif d'une sonde atomique, une sonde comprenant une ou plusieurs atomes, qui est mis en proximité des objets pressentis. Ça peut être les petits molécules ou les atomes de taille. Et la charge électrique est mise par l'atome, introduit une force électronique de restriction qui repositionne le palper, le sonde, et donc indique la présence ou l'absence, en quelque sorte, d'un obstacle, et en le suivant, par le contrôle électronique, informatique, on peut obtenir quelques informations sur la géométrie de l'ensemble de cette rangée ou d'autres morphologies des atomes. Donc là, si tu mets trois slides, le 3, 4, 5, oui.
D'accord.
Là, vous voyez ce que je décris, c'est un dispositif piezoélectrique accompagné d'un un transducteur électromécanique, donc qui traduise le niveau énergique de repulsion dans un micro-mouvement mécanique qui est à la suite traduit par l'informatique dans un certain nombre de points. Et vous avez là, avec le 3, tout à fait un sentiment d'extraordinaire complexité de ce dispositif instrumental. Dans le 3, vous voyez donc, slide 3, vous voyez donc une première chambre qui est responsable pour l'échantillage. Puis vous avez une deuxième chambre qui fait le travail de cristallographie, un troisième qui peut faire la manipulation en métallurgie, ainsi de suite. Pour arriver à la cinquième chambre, qui est celui de la détection, et bon, ce qu'on ne voit pas, il y a même un sixième dispositif intégré là, c'est l'informatique. Parce que le mouvement du palper n'est rien en soi. Il faut que ça soit traduit en intelligibilité. Donc, l'intelligibilité, on le verra en quelques secondes, c'est tout simplement une rangée de points ou une zone claire sur un fond gris, avec un arrière-fond peut-être encore plus foncé. Dans le slide 4, vous voyez l'importance de la molecular evaporation, l'évaporation moléculaire. C'est-à-dire quand vous mesurez les objets nano échelle, il s'agit vraiment de travailler avec les quantités de substances de mon microscopie qui est à peine suffisant. C'est-à-dire que vous travaillez avec les atomes en monocouche ou bicouche maximum. Vous travaillez avec les petites molécules. Et la seule façon de faire ça, c'est de transformer les substances en les jets d'ions. Donc, les complexités inimaginables ou la distance entre la matière présupposée et les images qu'on verra en quelques instants qui sont censées représenter une certaine intelligibilité est très, très, très considérable. Et je reviendrai à quelques secondes sur l'histoire de la culture des images dans la science en général. Depuis la fin du milieu du 19e siècle, et toutes les complexités posées dans cette culture de visualisation scientifique par la nanoscience et la nanotechnologie. Donc, vous voyez, 3, 4, 5, je crois, dans l'image 7, vous voyez le fonctionnement de ce que j'ai essayé de décrire, c'est-à-dire le scanning tunneling microscope, donc avec, je crois, visible le sonde, le pointe, que ça se rapproche aux cibles qui sera un atome, un gros atome ou un petit molécule, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que ça produit, c'est un peu plus loin. Vous allez voir les types de taches de nickel. Il y a des représentations de nickel platinum et je crois que c'est nickel rhodium. Tu le vois là?
C'est platine et nickel.
Ouais, tu le vois? Et vous voyez, parce que là, c'est exactement l'intelligibilité caractéristique d'une partie importante de nanosciences et nanotechnologie. C'est-à-dire que les nanoscientifiques peuvent vous dire quoi sur le nanomonde. Ils peuvent vous dire que vous avez un certain nombre, un certain arrangement ou densité de produits, de substances. Mais regardez bien l'image. Qu'est-ce que vous déduisez comme caractéristique de surface? Qu'est-ce que vous déduisez comme dynamique? Vous voyez le contraste avec le platine. Il s'agit simplement d'une couleur. Et cette couleur est rendue de shading, de contraste, mettons. D'un contraste. Et cela est un artefact de la technologie, d'un système de traitement d'images sélectionnées, réglées, ainsi de suite. qui vous permet simplement de voir croire, de voir les distinctions, de voir les distinctions. Donc vous êtes dans un type de nanosciences et nanotechnologie, vous êtes très très souvent dans un cadre épistémologique binaire. C'est-à-dire que la réponse est souvent oui ou non. Il n'est pas dynamique. Il n'est pas dynamique, il est spatial, géométrique. Et c'est très, très important. Le but est bien évidemment la manipulation efficace des objets de nano-échelle. Mais la voie technologique utilisée et le raisonnement épistémologique déployé est essentiellement binaire. C'est très, très important. Il faut comprendre bien que la nanoscience et la nanotechnologie et les images, soient-ils aussi primitifs qu'on peut imaginer aujourd'hui, ne sont pas le fruit direct de la science. L'histoire moderne, notre histoire des images, de visualisation, c'est une histoire qui vient de l'ingénierie et du monde d'émerveillement. Les premières images modernes sont liées à l'histoire du transistor 1947 et le CPU, le chip, le Central Processing Unit début des années 60 et sont également liées à la technologie d'informatique. Et les premières images intéressantes sont liées essentiellement au projet militaire, nationaliste et militaire. On parle maintenant de simulateurs de vol. Les images contemporaines que nous connaissons sont nées pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les écoles de vol militaire, suivies dans les années 50 et 60 dans le centre de recherche sur la défense de missiles transcontinentaux. Donc on a produit les systèmes très très primitifs d'imagerie qui était souvent au début statique puis animée. Les travaux se faisaient dans les bureaux d'études militaires ou quasi-militaires, liés avec les grandes universités telles que MIT ou Stanford aux États-Unis. Mais il se développe là, et ça c'est intéressant, un type de projet autonome d'imagerie. C'est-à-dire, l'image devient un type de finalité en soi. C'est un immense défi technologique de produire les images qui sont réalistes, ultra réalistes, et qui véhiculent de la compréhension. On peut avoir les images extrêmement primitives, mais petit à petit, les images deviennent très, très, très convaincantes, très séduisantes, un vocabulaire en soi. Et les travaux de cela, deux faisceaux de travaux en imagerie parallèle, militaire et ingénierie, comme j'ai indiqué, pour les objectifs de défense et d'innovation industrielle, de conceptualisation. On utilise les images manipulées pour faire les innovations dans l'aviation, plus tard dans l'automobile. Et puis l'autre, et ça c'est encore plus décisif, et on va voir le retomber très vite, c'est le monde d'émerveillement. Qui a financé le plus l'imagerie entre 1970 et aujourd'hui? Hollywood. C'est pour le cinéma. Sont nés donc dans les années 60 les grands centres de recherche en sciences cognitives et en informatique en production d'images. avec, par exemple, the New York Institute of Technology, qui n'est pas bien connu probablement à ce public, les laboratoires Berkeley, le laboratoire Utah State University, qui est le plus grand du monde dans l'innovation en images pendant des décennies. Donc, il y avait vraiment une recherche fondamentale en psychologie, psychologie de la perception. On va voir comment c'est important. Sciences cognitives, le développement d'algorithmes, ainsi de suite. Et très vite, qui achète des chercheurs de ces différents centres? C'est George Lucas, c'est Hollywood. Ils sont drainés massivement. Lisez l'histoire des images d'aujourd'hui. Et vous trouverez véritablement les origines chez les militaires et dans le cinéma. La qualité, la capacité de traiter les images vient essentiellement de l'industrie cinématographique. Mesuré en termes d'argent investi et en termes de talent recruté. Et quoi alors pour les nanosciences et les nanotechnologies? Et pour la science, ça a suivi. Le monde du graphisme scientifique se développe bien après, dans les années 90 essentiellement. Et historiquement, si vous le regardez de près, se développe particulièrement dans le domaine de nanosciences et nanotechnologies. On peut faire les études bibliométriques. J'ai fait les études bibliométriques qui montrent bien la corrélation forte entre à la fois l'utilisation et la diversification des images en nano et d'autres domaines. Et il y a une corrélation très, très forte pour le nano. Moi, j'avais l'envie de dire, quand j'ai commencé, quand Sacha avait la gentillesse de m'inviter, j'avais l'envie de dire que la visualisation scientifique est un fruit du milieu du 19e siècle. Mais c'est faux. C'est au moins largement faux. Un collègue, Anne Markovitch, m'a fait remarquer que les images ou une certaine forme d'image ponctue sur temps de science depuis bien entendu il y a toutes les images médicales il faut souligner le rôle très important de l'histoire de la perspective qui date du 15e, 16e siècle, Brunelleschi, Da Vinci a systématiquement cherché à faire avec les images certaines choses qu'il n'était pas capable à faire avec ses mains et les technologies de l'époque. Newton a fait les images aussi, Leibniz, Descartes. Vous avez vu beaucoup de dessins. Ce que je crois, ce qui se passe dans le 19e siècle et caractérise la science de notre ère et particulièrement saillant dans la nanoscience et la nanotechnologie, c'est justement le projet de voir ce qu'on ne peut pas voir. Le projet de voir, c'est-à-dire d'utiliser non pas une image pour voir, mais pour comprendre. Les images pour comprendre. Donc, Helmholtz, Gauss seront peut-être les exemplaires que j'utilise et vous pourrez faire le reste dans vos esprits. Mais je crois qu'il y a une certaine transformation dans l'épistémologie et le rôle joué par la visualisation en science avec, bon, je ne sais pas la date, mais avec le 19e siècle, qui devient vraiment un véritable leitmotiv en nanosciences et nanotechnologie, et qui est intéressant de deux points de vue. Il est intéressant parce qu'il a comme base de logique la polysémie, et il a comme base de logique la transversalité. C'est-à-dire, maintenant, on sait qu'une image en science n'est faite que pour représenter un aspect d'un phénomène qu'on a pré-sélectionné. Donc, on ne se renseigne pas sur le phénomène en soi. On est aveugle, on ne le connaît pas. Mais on choisit une composante et on choisit explicitement par la sélection d'algorithmes et tous les codages perceptuels, le type d'accès qu'on aura à cet phénomène présupposé. Donc je crois qu'avec le 19e siècle, et je crois que grâce à la métamorphose rendue aux images par le génie et le monde du cinéma, on voit là l'introduction d'une véritable logique relativement nouveau, en discontinuité avec les âges historiques précédents, et qui convient tout à fait à cet nanomonde qu'on pourrait mieux peut-être qualifier de nanoculture, c'est-à-dire l'étendue du projet est si vaste, et les composantes qui le forment sont à la fois si spécifiques que ça constitue une culture en discontinuité avec d'autres formatages et projets culturels, à mon avis, témoigné par les difficultés de faire une recherche socio-épistémologique un peu propre dans le domaine. Attends, parce que je suis pas mon propre clan, c'est pas grave. En tout cas, c'est pas grave pour moi. Oui, ok. Donc, ce que je cherche à suggérer est que les images en nanosciences et technologies constituent véritablement une chaîne d'images allant de un extrême à un autre extrême, c'est-à-dire les images faites sur mesure, où la finalité de la mesure précède le travail opératoire sur l'image, jusqu'à une forme de pop culture. Et je veux, même si ce n'est pas dans le domaine de la, strictement parlant, nanotechnologie, je vous montrer très rapidement ce que je comprends par l'immense élasticité à un extrême des chaînes des images. Attends, je crois. Yeah, ok. 12, 13 et 14 m'intéressent. Ma slide.
Le 12, c'est un titre.
Oui,
c'est la coupe de l'intensité.
Absolument. C'est le 13 qui m'intéresse, voilà. Et le 14 va m'intéresser. Alors, donc ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que vous voyez là, dans le noyau de la science extrêmement rigoureux, la sélection d'une certaine représentation qui fournit à un certain nombre d'informations et qui vous nie toute une autre catégorie d'informations. Alors, là, vous voyez, même, je sais, bon, il faut que vous faites un peu abstraction, parce que c'est un cube, mais c'est un cube qui vous montre un phénomène, bon, c'est le rayonnement de hydrogène à travers une coupe d'espace, vous voyez bien. Mais ce qui est intéressant est que cette représentation-là vous permet de voir en surface, même si c'est tridimensionnel, ce que vous voyez là, c'est uniquement une représentation d'un phénomène de surface, d'un état, d'un passage d'énergie d'hydrogène. Donc, pourquoi vous avez sélectionné de créer avec votre ordinateur cette représentation-là? Parce que ça vous donne un maximum d'informations sur cette coupe-là, sur cette slice, sur cette tranche-là. Vous voyez une gamme de niveaux d'énergie. C'est intéressant. Mais ça ne vous donne pas les informations intéressantes sur le flux total d'énergie qui traverse cette tranche-là. Ça vous donne simplement une information élémentaire, partielle, sur un certain aspect d'un phénomène complexe. Ça, c'est le 13, je crois. Regardez le 14.
C'est le nuage.
Voilà.
C'est ça?
Ouais. Exactement. C'est pas... Hein? C'est encore en trois dimensions, mais c'est aussi un isosurface. C'est aussi une surface. Et là, vous voyez quoi? Regardez, c'est pas très distinct. C'est un nuage. Hein? Vous n'avez pas les informations précises sur le phénomène. Mais vous voyez quand même, l'ensemble de faisceaux d'énergie qui présente dans l'isoplane. Vous choisissez. Mais le type d'information, votre compréhension du phénomène à partir de ces deux images, ils ne sont pas divergents, mais ils ne sont pas non plus extrêmement complémentaires. Vous choisissez votre plan, non pas notre niveau de discussion, mais votre plan d'intelligibilité. Ce plan d'intelligibilité précède la réflexion. Ce n'est pas en effet, c'est ce plan d'intelligibilité qui va structurer votre réflexion. Ce n'est pas la réflexion qui va structurer ton intelligibilité. On choisit la technologie de représentation et après on apprend à partir de cette représentation. C'est dans le protocole expérimentale dominante dans la majorité des laboratoires. Je vous montre c'est pas mes images favorites, c'est pas grave. Je crois que c'est le 15, montre-moi le 15. Ah non, 16, 16. Voilà. Je veux le 16.
Fluide magnétisé.
Voilà, vous voyez là. Donc là on opte pour ce qu'on appelle le premier rendement de surface, vous avez compris ça. Ça, c'est un rendement volumique. Et vous voyez que là, bon, c'est pour un système, ça décrit un système de magnétorestriction. Voilà. Et ce que vous voyez là, dans le premier, je veux le premier, c'est le 16. Donc, vous voyez les différentes composantes entropiques. Entropie, c'est le magnétoconstriction dans un fluide incompressible. Hein. C'est pas l'entropie, c'est l'entropie. Donc, vous voyez là les relations entre les composantes entropiques dans un fluide magnétique. Et là, c'est une image qui vous permet de comprendre, bon, de réfléchir sur un certain système de contraintes. Mais prends le suivant, c'est la même chose.
Fluide en convection.
Ouais. Regardez ça. Et dans cette volume rendering, qu'est-ce que vous voyez là? Vous avez l'interlacement. Vous avez l'interlacement. Vous n'avez plus les informations sur les dynamiques individuelles. Vous avez vraiment le système de. Vous voyez là la complexité. Vous voyez là Donc, vous imaginez les différentes formes d'intelligibilité ou degré de confusion que vous générez avec un répertoire de et ce que rend la tâche encore plus périlleuse, c'est l'image clé en main. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui va dire je veux ça et je veux ça. Vous achetez les programmes clé en main. Et ces clés en main ont un petit secret. Parce que normalement, le contraste, le shadowing et les couleurs sont fournis. Les concepteurs des images à Hollywood et les concepteurs de programmes scientifiques savent bien, par la psychologie de la perception, que certains shading, contrastes, et certaines couleurs attirent l'attention plus que d'autres. Donc, il ne s'agit pas d'une intelligibilité basée systématiquement sur la morphologie de ce qu'on voit, il est aussi basé sur le veille optico-cérébral de ce qu'on voit. Ça est disponible dans le programme comme kit standard. Vous pourrez le modifier, mais il faut le modifier si vous voulez le modifier. Et d'autre part, il faut savoir pourquoi vous le modifiez. Mais prise comme un objet semi-standard, comme ça, la couleur, même la couleur, le degré de contraste introduit dans cette représentation aura fort probablement une influence sur les informations que vous allez retirer de cet ensemble d'images. Et ça, c'est très très important. Je vous propose l'idée que dans les nanosciences et les nanotechnologies, cette configuration là est extrêmement importante compte tenu du fait qu'il y a un foison, une dépendance extrêmement importante sur ces images, une dépendance sur les images qui découle du fait que les instruments de mesure et de production vous donne les informations essentiellement spatiales et géométriques. Ok, j'ai encore 3 minutes. Ok. Maintenant, je veux quand même montrer qu'il existe des projets en nanosciences et nanotechnologie qui peut neutraliser une certaine quantité de ces alias et de ces caractéristiques technologiques. Et je crois que c'est la... Attends. Bon, je crois que c'est les 19 que je veux. Qu'est-ce que c'est les 19
du moins? Ce sont des courbes.
Ah, elles sont beaux. Voilà. Ok. Très, très beaux. Voilà. Voilà. Magnifique. C'est mon image préférée. Hein? Alors, là, c'est très important. Ah, ça, c'est, merci à Sacha Love. Ça, c'est lui qui m'a donné des articles. Hein? Ouais. Ça vient de toi.
Et c'est quand il pousse les molécules sur la surface.
Exact. Ouais. Exact. Et pourquoi cette image se différencie des autres? Cette image, d'abord, la place, sa position dans la classification des images. Cette image-là est unique, ou représentative, elle est exemplaire pour moi, parce que c'est une image qui possède le potentiel de l'interdisciplinarité. Ça affiche un projet qui permet les gens cherchant différents éléments en différentes disciplines, en utilisant une certaine catégorie d'instruments, de comprendre à peu près le même, de développer une intelligibilité convergente. Comment ça? Regardez bien l'image. Vous voyez pour les trois régimes, vous avez le pushing, je crois, régime. Et pour le pushing régime, vous avez absolument toutes les valeurs, regardez les courbes, vous avez toutes les valeurs de modification de niveau d'énergie dans le Josephson effect pour obtenir une action spécifique. C'est-à-dire que vous voyez sur le plan pictoral, vous voyez en parallèle un mouvement, vous voyez la flèche là, de pousser. Mais indépendamment de la suggestion de pousser, vous pourrez attribuer des valeurs numériques à ça. Donc vous avez à la fois un certain sens physique de déplacement et de spatialité, et vous avez les informations qui vous permettent concrètement, indépendamment du domaine dans lequel vous travaillez, de reproduire cela. Vous voyez la même chose avec le pulling. Pulling.
Il y a pulling et push-pulling.
And push-pulling. Mm-hmm. Et c'est intéressant, regardez les valeurs pour le push-pulling. C'est fascinant, hein? Regardez la convergence entre le pushing et le push-pulling.
Oui,
c'est très beau. C'est très, très beau. C'est très, très précis. Et pour moi, quand on parle de l'intelligibilité, j'ai parlé de l'intelligibilité avec surface rendering et volume rendering, mais c'est une intelligibilité relative. C'est une intelligibilité contingente. C'est une intelligibilité fondée sur un processus de présélection des représentations. Ici, vous avez tout à fait une autre démarche, à mon avis. Vous avez vraiment une démarche transversaliste où vous développez des moyens, des vocabulaires pour communiquer en dehors des frontières de votre propre champ de pratique. C'est très, très important. Et là, qu'est-ce que c'est ça? Là, je croyez-moi, il fallait que je cherche. Et heureusement, il est là, lui. Parce que j'ai passé des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures à chercher dans les périodiques, pas sur Internet. Les périodiques, pour la plupart, et on trouve extrêmement peu d'images de cette qualité transversaliste. Bon, maintenant, bon, très, très rapidement, je m'arrête. Tu prends 20, bonbon. Là, tu prends ça parce que c'est tout à fait un autre projet, mais c'est le projet scientifique. C'est le projet scientifique, le 21. C'est fait par Don Eigler, un physicien qui est un bon physicien travaillant pour IBM dans le domaine de physique des surfaces. nano-échelle, et ils s'amusent. Mais quand même, c'est les... C'est pas pour artistes, quoi. Oui, les artistes, je m'en fous. Mais quand même, c'est les vraies représentations, un peu trafiquées, mais des objets explorés, utilisant les combinaisons que j'ai mentionnées, c'est-à-dire le scanning, la microscopie à champ proche, quoi, d'une part, et la fabrication des images, d'autre part. Le 22, bon, vous voyez bien, 23, bon, c'est lui, quoi, c'est le... Je dis pas plus, ça va devenir pire. maintenant, il faut que la nanoculture soit nanoculture, donc que ça soit un peu anthropomorphisé, n'est-ce pas? Voilà, l'âme moléculaire, hein. 24, quoi. Et puis les artistes s'amusent aussi, mais ils profitent. Si, bon, ça, si vous appelez ça artiste, quoi. C'est un pauvre gars qui habite à Los Angeles, et c'est le dernier, le 25, qui fait décorer les murs des tristes Américains à Los Angeles avec ce type d'objet, quoi. Mais donc dans cette petite présentation, j'essayais de proposer que la nanoscience et la nanotechnologie sont les fruits d'une certaine technologie et une certaine forme, une technologie générique, de technologie, et c'est justement cette généricité, cette capacité de transversalité que cette activité intellectuelle, économique et culturelle puisse être si diverse, qui peut être si prenante. Ça rend sens dans beaucoup de champs différents. Certaines de nanosciences et de nanotechnologies sont par excellence la production de l'artificiel par l'artificiel. De l'artificiel par l'artificiel. Et très intéressant à voir, cette artificialité est maintenant fait partie de notre univers institutionnel et politique. Il n'y a aucune, comme j'ai essayé de signaler dans mes tout premiers mots, les travaux sur l'espace, les travaux sur le génome, les travaux sur les cancers. Il y a tant de travaux bibliométriques qui montrent que dans l'histoire de la science, il n'y a aucun autre mouvement disciplinaire, scientifique, institutionnel, politique de la recherche et politique qui est si mobilisante que la nanoscience et technologie. Ok, c'est bon. Merci.
Merci, Thierry.
Bien. Parole est à celui qui veut la prendre.
J'avais pas compris jusqu'à présent la différence qu'on faisait entre nanosciences et nanotechnologie. Il me semble avoir compris maintenant, en fait, du fait que finalement le plan d'intelligibilité précédant toujours le plan de représentation, finalement, c'est ce plan d'intelligibilité qui pourrait être qualifié de nanosciences, et puis ensuite tous les moyens techniques de représentation pourraient être ce qu'on appelle les nanotechnologies. Est-ce que je me trompe en...
À mon avis, il n'y a pas de réponse à cette question. Je vous ai dit, j'ai pas ces 200 questionnaires, ok? Et une question qui est intéressante dans ce questionnaire pour les chercheurs est quelle est la distance entre nanosciences et nanotechnologie? Pour essayer de voir chez eux s'ils repèrent une différence. Et sur le plan subjectif, comme ça, on demande si la distance est zéro. Ou s'il est très important, 3. 0, 1, 2, 3. Bon. Et la, pour quelque chose comme 65%, c'est 0 ou 1. En revanche, la question m'intéresse beaucoup parce qu'il y a une question juste à côté. Est-ce que vous investissez dans les formes technologiques ou dans les formes cognitives? Et il y a une faible corrélation entre connaissance et distance. C'est-à-dire que les gens qui répondent connaissance, il y a une corrélation plus élevée qui met une distance donc, entre nanosciences et nanotechnologie. Donc, il y a une certaine corrélation entre nanosciences et intelligibilité, et une certaine corrélation entre un investissement dans les technologies et les nanotechnologies. Explicite investissement dans le côté technologique de la chose et les technologies. Mais les frontières sont brouillées et très, très, très floues. Il faut pas être trop essentialiste. C'est ça la leçon que les gens se positionnent, ils se repositionnent. Le champ de nanosciences et de nanotechnologie se constitue aujourd'hui. Et il est extrêmement fluide. Laisse-moi répondre un peu autrement. Il y a les journaux qui se spécialisent dans les questions de développement des instruments, de palper des sondes, de tips, de stabilisation des dispositifs, de raffinement de l'environnement, de préparation des échantillons, des choses comme ça. Et là, je crois que cette orientation est essentiellement technologique. Mais merde, Bernadette Benso, on a fait un petit début de Paris, et elle a bon. Parce que son idée que la technologie est moins importante et que ça se mélange et tout, et tout, et tout. Et moi, j'avais prévu une différenciation relativement nette, et c'est plutôt Bernadette qui avait raison. Il y a les îlots. On peut dire ça, c'est les nanosciences. Et ça, c'est les nanotechnologies. Ça, c'est pas fausse. Mais elle avait plutôt raison dans le sens que la zone de brouillage est le config dominant. C'est pas un côté ça et un côté ça. C'est très, très, très brouillé. Et c'est peut-être, justement, fondamental. C'est juste, peut-être, parce que vous savez très, très bien que dans le système universitaire, ou même dans l'industrie, il y a une tendance à la frontérisation, à la différenciation. On invente les frontières pour les raisons de compétences, pour les raisons de crédit, pour blablabla. Mais c'est fascinant. Peut-être on se trouve dans un régime de production où le payoff, la réussite est dans l'instabilité. Ça, c'est intéressant. Merde! J'ai oublié deux parties. Oh, c'est pas grave. Sinon, j'allais parler une autre demi-heure. Et c'est très, très intéressant. C'est très, très intéressant. Et justement, il y a aussi une autre dimension, on n'a pas parlé du tout ici, c'est les simulations numériques et nanosciences et technologies. J'avais deux sous-parties là-dessus. Et ça, justement, je dis en deux mots, en nanosciences et nanotechnologies, on ne peut pas intégrer les trois éléments nécessaires pour décrire un système. Pour décrire un système à la nano-échelle, on est obligé d'évoquer Linear Elastic Theory, qui s'en occupe des gros objets de niveau de micron, mettons. Ils sont homogènes, ils ont une structure homogène. Et c'est la mécanique classique, Continuous Mechanics, qui peut décrire la dureté, la rigidité, bon, voilà, hein. Puis on a besoin. Mais pas à côté, simultanément, à décrire la dynamique moléculaire, le fameux Van der Waals forces, qui touche à, bien entendu, aux contraintes thermodynamiques. Il y a les liens entre molécules qui ont une force thermodynamique. Et quand il y a une rupture dans un système mécanique, un système mécanique homogène, censé homogène, il n'est jamais homogène parce qu'il y a aussi une action sur le plan de Van der Waals, sur le plan moléculaire, c'est évident. Et puis, à côté de ça, il y a les instabilités électroniques. Donc, il faut travailler aussi sur l'échelle quantique. Il faut les faire simultanément. Normalement, dans le meilleur programme, vous faites deux récursions entre le niveau atomique et moléculaire, et puis vous commencez le système de récursion avec le système de linear elastic theory. Mais ce qui est intéressant est que vous êtes obligé simultanément de travailler sur les niveaux pour lesquels il n'existe absolument aucun Hamiltonien. C'est-à-dire qu'il n'existe pas. Alors, je voulais vous parler justement des travaux de Srivastava à NASA, à Ames, qui a une approche vers la nanosciences et technologie, nanotechnologie, extrêmement intéressante par la simulation numérique, qui ne cherche pas à décrire la nanoéchelle. Il cherche à identifier les systèmes qui sont réguliers ou irréguliers. L'hypothèse en étant, avec les systèmes stables et réguliers, vous pourrez éventuellement commencer à travailler sur les dispositifs susceptibles de se reproduire. Bon, l'autre système dont je ne peux pas vous parler, donc je vous parlerai un peu quand même, c'est les travaux aux États-Unis, qui cherche à développer, justement, à développer un Hamiltonien pour lier la linear elastic theory et la classical quantum dynamics. On utilise le système admissio pour décrire le fonctionnement de à peu près 1000 objets, et puis le système quantique pour décrire à peu près 10 atomes. Donc il y a tous ces projets qui sont très importants pour nous, parce que là justement il n'y a pas de théorie. Vous savez que on l'a dit comme hypothèse que la théorie n'est pas pertinente pour le monde de nanosciences et technologies. Et dans mes travaux sur l'épistémologie pratique, il est tout à fait vrai que la théorie est presque quasi absente. En revanche, la modélisation est plus importante. Et l'importance d'introduire un modèle est que vous n'êtes pas obligé de prendre le modèle tel quel. Les modèles sont incompatibles, évidemment. Donc, vous prenez des morceaux d'un modèle qui est éventuellement compatible avec un autre morceau de modèle. C'est admis dans le processus de modélisation et simulation. Donc, peut-être éventuellement, par cette moyen-là, vous pourrez développer les transversalités entre les trois niveaux de physique que je viens de mentionner. Mais une fois de plus, on peut dire n'importe quoi, parce qu'il n'y a aucun dispositif instrumental qui vous permet de représenter de manière quelconque ces systèmes. Donc, vous pourrez dire ce que vous voulez avec vos images de la simulation faite par la simulation, mais par exemple, l'atomic force microscopy peut même pas décrire la dynamique des effets van der Waal dans les carbon nanotubes à double cloison. Donc, les images vous autorisent tout, actuellement. Vous autorisent absolument tout. Ce n'est pas, de ma part, un refus des images. Mais je crois qu'il faut, justement, un type de sociologie et philosophie critique de la construction et le rôle spécifique des images dans la culture nanoscientifique, parce que là, tout est possible et rien n'est vérifiable.
Est-ce que je peux te relancer sur cette question-là ? Tu sais que je m'intéresse toujours beaucoup à la circulation des analogies et je me suis aussi occupé de questions de représentation en ce qui concerne les fractales, où j'ai vu beaucoup de différences entre les usages qu'on peut avoir. Alors, dans les images que tu nous as montrées, il y en a qui ont, pour reprendre une expression de Sacha Love, une puissance phénoménale de rhétorique très forte, parce qu'on a l'impression effectivement de voir en fait ce qui ne peut pas être vu, tout simplement. Hein. Mais les dernières que tu avais montrées, enfin celles qui représentaient un graphe avec un diagramme, finalement,
oui,
tu as bien précisé que celles-ci, elles étaient capables de circuler justement entre plusieurs scientifiques, voire des scientifiques de domaines différents. Si
Voilà.
Donc, il y aurait donc sans doute une possibilité de faire un travail de classement au sein des images entre une polarité, entre d'un côté effectivement ce qui est de l'ordre du diagramme, du graphe, et de l'autre côté d'une image très esthétisante. Est-ce qu'on retrouverait dans la circulation de ces images aussi une polarité entre ce qui circule à l'intérieur ou entre des champs scientifiques d'un côté et ce qui va circuler à la frontière ou à l'extérieur du champ scientifique pour des fins mercantile, publicitaire, transfert de capital, que sais-je. Est-ce qu'on retrouve ça ou est-ce que c'est plus compliqué que ce que je fais là à grand trait?
Donc, je crois qu'il s'agit d'une taxonomie comportant deux cases, quoi. Que vous aurez la catégorie accompagnée de toutes ces caractéristiques.
Oui.
C'est vocabulaire qui sera type slide 19,
oui.
Hein, qui est parlant aux gens ayant une culture partagée.
Oui.
Une culture partagée, universitaire, une certaine la maîtrise des instruments, même une connaissance des instruments. Et cette catégorie d'images-là, type 19,
mm-hmm.
intelligibilité transversaliste sera relativement inintéressant pour le
grand public,
pour un public plus large.
Ah d'accord.
Ouais. Je crois que
pourtant c'est la plus éclairante. Un diagramme, c'est la seule où on voit un petit rapport avec le fonctionnement du STM.
Absolument.
Sur le diagramme, on comprend soit on pousse, soit on tire les molécules, soit on est au milieu.
Ouais.
C'est extrêmement parlant.
Ils ont fait le même travail aussi parce que leur
c'est la seule qui a un contenu informatif, je veux dire.
Oui.
Leur but, c'est de prouver qu'il y avait un mouvement, parce que si je me souviens bien, c'est une brouette moléculaire de Christian Joachim, ou alors c'est juste les deux roues de la brouette, le dimère, les deux roues.
Ouais.
Et il s'agissait de prouver qu'il y a un mouvement de rotation, qui apparemment est un mouvement mécanique à nanoéchelle, des roues, et non pas un mouvement de translation, un glissage.
Oui.
Et donc ils ont fait le même travail aussi, ils savent maintenant reconnaître une molécule qui roule d'une molécule qui est simplement poussée. Et c'est des données quantitatives. Et c'est des données quantitatives et qui sont en rapport avec l'utilisation la plus frusque de l'instrument,
parce
qu'on a juste la courbe, on a juste l'intensité du courant tunnel.
Oui, mais elle est très parlante, parce qu'on on y lit même quelque chose du type de l'intuition de l'inertie.
C'est important.
C'est ça qui est très intuitif.
Et ça, c'est fondamental dans la science.
Oui.
Et il ne faut pas le...
Oui, oui.
Hein,
c'est comme ça. Et tu crois pas tu penses qu'il n'y a que deux catégories. Tu ne penses pas qu'il y aura un dégradé. C'est-à-dire qu'il y aura des images bricolées qui sont plus ou moins éclairantes et d'autres qui sont plus ou moins mystifiantes.
C'est une question empirique. Hein.
D'accord.
Là, je crois rien. Je cherche.
D'accord. Hein.
Mais là, cherchons.
Ah oui, bon,
cherchons. Il s'agit de ça. Il est possible qu'il y a les systèmes atténués,
D'accord.
Mais mon sentiment est que uniquement et qu'on va vers un régime. On va vers un régime des caractéristiques. Mais bon, ce régime est peut-être moins épistémologique que sociologique.
Je pense que les deux peuvent être corrélés, mais bon, tu sais.
Non, ben, ils peuvent, mais ta question est comme d'habitude excellente.
Merci.
Traître.
Il y a aussi des phénomènes culturels, c'est-à-dire que même si on parle bien sûr de représentations totalement artificielles et imaginaires, au bout d'un moment, avec le temps, elles finissent par rentrer tellement dans la culture scientifique qu'on les tient complètement pour acquises. Je pense à la représentation de Fourier, par exemple. Elle est quand même tellement dans les esprits depuis 150 ans que je pense que même je ne connais personne qui pense à la remettre en cause.
Il est naturalisé.
Oui, complètement. Il faut tenir compte aussi du facteur temps dans ces histoires de représentation.
Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. On naturalise un truc qui est étrange. Vous souvenez de la spectroscopie pas transformée de Fourier développée dans les années 60-70. Maintenant, c'est complètement. C'est que manger une banane, quoi. C'est-à-dire que certaines des images sont spontanément intelligibles. Hein? Ça, c'est important. Donc, il y a un type d'assimilation. Ouais.
Oui. Ça peut même servir de base, justement, pour de nouvelles analogies. La théorie des ondes, quand elle s'est développée, prenez comme modèle d'intelligibilité justement les transformées de Fourier et choses comme ça. Voilà. Donc on prenait quelque chose qui était au départ quelque chose de très très abstrait et qui était une fois naturalisé, servait de modèle analogique pour rendre de nouveau concret quelque chose qui était un modèle encore plus.
Et ça c'est très récent parce que c'est depuis la mise en place du Cooley-Tookie algorithm, 1965. Hein? C'est très. C'est-à-dire que la démocratisation. De ces images. C'est très récent.
Ce qui me frappe, c'est que quand on va dans des laboratoires voir rencontrer des scientifiques, ils montrent pas seulement des images, mais souvent des petits films.
Oui.
Des petits films, qui sont des reconstructions, des synthèses. C'est le côté dynamique des choses qui est intéressant à voir. Alors, est-ce que tu as des données là-dessus? Est-ce que tu as des recherches sur le statut de ces petits films? Est-ce que ce statut épistémologique est le même que celui des images que tu viens de nous montrer? Ou est-ce que ces petits films ont un statut à part?
Non, la réflexion que je mène ici est essentiellement basée sur la presse écrite.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire que moi je travaille sur un corpus, mais cette question est fondamentale parce que ce qu'on lit dans les revues scientifiques c'est la science officielle, c'est ce qui est communiqué indépendamment des producteurs en quelque sorte. Je suis allé à Lyon récemment et il est tout à fait vrai que là on te montre d'autres choses, mais je peux pas je ne le sais pas. En tout cas il y a une forte identification des chercheurs de ces images animées. Alors la question quel est le surplus d'intelligibilité?
Exact. Voilà, c'est ça le problème.
Est-ce que c'est joujou? C'est sûr que c'est joujou. Mais ça on peut développer un protocole et l'explorer. Mais si c'est quelque chose autre que ce qu'on lit dans les journaux. C'est très important. Parce que ça voudrait dire qu'il y a un type de rupture épistémologique dans la circulation officielle des connaissances.
Exactement.
Ça veut dire qu'il faut une relation personnelle. Alors, tu sais fortement bien les travaux de Nowotny et Gibbons et tout ça. Là, ils parlent, eux, la nanoscience et la nanotechnologie, c'est l'avenir. OK? Et ils parlent d'un flux très important de mobilité. Les gens changent de projet, ils changent de site, ils changent de forme de coopération. Mais ce que nous a un peu une édise en noir et blanc. Bon. Ce que notre étude là, que je veux le mentionner, que je ne le fais pas seul, je fais cette étude en collaboration avec un homme qui s'appelle Erwin Lamy. Donc c'est notre étude. On a vu dans nos questionnaires qu'il y a étonnamment peu de circulation. Alors, est-ce que le questionnaire est mal, tu vois? Mais bon, on a plusieurs questions qui portent là-dessus, plusieurs façons que les gens peuvent signaler une mobilité personnelle qui serait propice à l'utilisation de cette animation, tu vois? Et je dis à partir de l'instrument que nous avons développé. Tu n'as pas vu l'instrument, je crois. Tu as vu l'instrument Barclay. On voit peu. Vraiment, on voit peu. Donc, si c'est vrai, ça voudrait dire que cette animation est réservée pour la population au sein de la boucle. Mais bon.
Pour revenir quand même sur le statut de ces images et puis des pratiques de laboratoire sur ces instruments, enfin, ce qu'on constate quand même dans les laboratoires, c'est que ils réinterrogent quand même constamment la manière dont ils obtiennent des images. Ils interrogent les données quantitatives, les images, les belles images colorées leur servent à réinterpréter aussi, pour leur donner plus de consistance, de texture, les images noir et blanc, où c'est juste un contraste, mais c'est avec ces images noir et blanc qu'ils travaillent. Donc, il y a quand même une forte dissonance entre le caractère séducteur des images qui se base dans les productions grand public, dans les médias, etc. Et puis le fait que l'image, enfin l'image qu'obtient le chercheur qui essaie de qui manipule sa molécule sur la surface, elle ne coïncide jamais avec elle-même, en quelque sorte. Il essaye toujours d'avoir une image plus fine, de demander ce que ça signifie, qu'est-ce qu'on voit exactement, c'est pas la localisation exacte des atomes, ce sont des nuages électroniques, etc. Donc il développe aussi un sens, moi en tout cas j'avais constaté un sens critique, qui est aussi une herméneutique de l'image, et comment la relier à des données, quoi.
Ouais.
Je sais qu'il y a un STMiste dans la salle, j'aimerais bien voir ton avis en gros.
La préparation des images, c'est à la fois façon d'interpréter ce qu'on voit. Ce que vous avez dit est très vrai. Il y a une interprétation qui vient après. On essaie de comprendre ce qu'on voit. Donc, le coloriage, par exemple, ce que Donald Glass a fait, c'est un effet visuel. Mais au fond, derrière, on essaie de comprendre ce qu'on voit. Donc, juste pour rebondir un peu sur le, par exemple, le Fourier transform. Si on prend l'image de Daigle, le réseau hexagonal d'atomes, hein, ça. Et vous feriez un Fourier transform de cette image. Vous aurez des points dans l'espace. Et en fait, ça correspond. Il y a une autre machine qui permet de voir les surfaces, mais à une échelle un peu plus large. Ça s'appelle la diffraction d'électrons d'onde. Et l'image que cette machine donne, c'est précisément des spots. Donc en fait, en faisant un transform Fourier, on voit le lien direct, ce qu'on voit entre les deux machines. Donc, tout est une compréhension de la physique, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on est en train de voir. Et ça, c'est tout un processus qui vient après avoir obtenu les images. Donc, c'est un processus.
Moi, je voulais soulever une question qui peut-être reviendra dans les séances suivantes du séminaire, mais là, je trouve que par rapport à l'intervention de Thierry, c'est vraiment le moment de la poser. Il est tout à fait frappant, après cet exposé, de voir le caractère éminemment singulier du problème de la représentation qui se pose dans les nanosciences. Ça, c'est tout à fait absolument évident. Et donc, loin de moi de vouloir atténuer cette singularité, bien au contraire. Mais en même temps, on le sait bien, pour pouvoir appréhender une singularité, pour autant qu'on puisse l'appréhender, et en principe on ne peut pas, la singularité absolue n'est pas appréhendable, mais disons, pour pouvoir rapporter cette singularité à d'autres singularités, pouvoir l'inscrire dans une pensée, une élaboration conceptuelle, il faut pouvoir la rapporter à autre chose. Et pour moi, ça fait déjà quelque temps que je pense dans ce sens-là, mais de manière totalement hypothétique, c'est-à-dire que c'est un travail que je n'ai pas fait. Une des raisons pour lesquelles j'ai suggéré d'ailleurs qu'on fasse ce séminaire, c'est aussi parce que moi, ça me permettra d'avancer dans ma propre réflexion sur ce sujet. Un des problèmes posés par les, pas simplement par les nanotechnologies, mais par ce qu'on appelle les technologies transformationnelles, ça appartient à ce que j'appelle la grammatisation. J'emploie le mot de grammatisation, c'est une expression que je reprends à un philosophe du langage qui s'appelle Sylvain Auroux, qui a, pour critiquer une certaine conception de la théorie du langage, ou plutôt de l'histoire des théories du langage, qui posait que les formalisations théoriques du langage auraient été à l'origine de la construction des représentations techniques du langage par l'écriture, par exemple, par les différentes formes d'écriture, a essayé de montrer, avec une base de documentation scientifique très très sérieuse, qui fait qu'à mon avis, son point de vue est totalement incontestable, que, tout au contraire, c'était des processus techniques qui s'étaient faits, comme on dit chez Hegel, dans le dos de la conscience, c'est-à-dire de manière totalement inconsciente, en fait, qui avaient amené à des constructions intellectuelles ensuite qui rationalisaient, d'abord par la grammaire et la rhétorique, puis la logique, et puis finalement les théories du langage, la grammaire de Port-Royal, la linguistique du 19e siècle, Saussure et le structuralisme, qui finalement avaient amené à la production de théories des phénomènes, mais qui étaient fondamentalement préparées, si je puis dire, par des processus techniques. Et moi, je crois beaucoup à ça, et j'ai essayé de faire une théorie élargie de la grammatisation. Parce que Auroux a fait utiliser la grammatisation exclusivement pour décrire les phénomènes qui vont, grosso modo, de l'alphabétisation, enfin de la construction de l'alphabet, parce qu'il ne met pas les idéogrammes, par exemple, dans la grammatisation. Jusqu'à ce qu'on appelle, moi j'avais appelé ça comme ça, en même temps que lui, les industries de la langue, c'est-à-dire le traitement automatique de la langue, donc l'application du calcul numérique sur les phénomènes linguistiques discrétisés par l'alphabet en réalité. Mais j'ai essayé de proposer donc moi un élargissement de cette théorie de la grammatisation à tous les phénomènes représentationnels, quels qu'ils soient. Par exemple, pour moi, le cinéma, c'est un processus de grammatisation. Alors, sachant que ce que j'appelle grammatisation, dans le sillage de Roux, mais en élargissant son discours, pour moi, une grammatisation, c'est tout ce qui permet de discrétiser un flux continu. Enfin, de discrétiser ce qui apparaît d'abord comme un flux continu, ce qui est perçu comme un flux continu. Et donc, je me suis appuyé sur les travaux de Sapir et surtout de Benjamin Leeworth sur un livre qui s'appelle Linguistique et Anthropologie pour montrer que les Indiens Hopi n'ont absolument pas une conscience de discontinuité dans le rapport à leur langue, et comme ils la dénient totalement. Et quand Benjamin Leeworth leur dit « Mais si, vous avez un langage qui est discontinu », ils disent « Non, c'est toi qui l'entends comme ça, mais pour nous, le langage, c'est une force, et c'est pas du tout une discontinuité, on comprend rien ton truc, quoi. » En réalité, ça, c'est un effet intégration et naturalisation de la transformée de Fourier, pour moi. Enfin, je veux dire, ça appartient à ça. Et dans le cas... Alors, j'ai essayé de montrer aussi que, par exemple, l'organisation scientifique du travail de Taylor, c'est une discrétisation, par la grammatisation, du geste du travailleur. Donc, que finalement, les machines-outils, ce sont des machines de grammatisation. Donc, on peut grammatiser tous les flux, pas simplement de la langue, pas simplement des représentations visuelles, pas simplement du mouvement corporel, mais on peut aussi discrétiser des flux de foule, par exemple, et tous les phénomènes de flux. En fait, c'est une techno-mathématisation ou une techno-discrétisation des flux, qui évidemment, à un moment donné, peut produire une théorisation à proprement parler. Alors, maintenant, parce que vous avez dit quelque chose, Thierry, d'extrêmement important, évidemment vertigineux pour un philosophe, c'est il n'y a peut-être pas de théorie possible. Or ça, moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que j'ai essayé de montrer, en m'appuyant sur les travaux de Sylvain Auroux, qu'en réalité, il ne peut pas y avoir de théorie du langage. En m'appuyant sur les travaux de Sylvain Auroux et de Gilbert Simondon. Parce que le langage, à partir du moment où on théorise le langage, on énonce linguistiquement quelque chose sur le langage qui transforme ce langage. Et du coup, l'objet, à partir du moment où on l'a théorisé, n'est déjà plus le même. Et donc, une espèce de phénomène que Simondon appelle d'inadéquation dans l'individuation, qui fait que de toute façon, il nous échappera absolument toujours. Et moi, j'ai appliqué ça à la théorie linguistique, en essayant de montrer qu'en réalité, quand un grammairien décrit un état de langue, en réalité, il fait un choix technique dans une discrétisation qui est absolument technique. Et que, du coup, il choisit une théorie qui est en fait un pouvoir linguistique. C'est-à-dire que c'est un pouvoir de certaines façons de parler la langue sur le reste de ceux qui parlent cette langue pour leur imposer une certaine description de leur langue. Tout ça n'est pas du tout une dénonciation d'une vanité de la linguistique, parce que je ne crois pas du tout que la linguistique soit vaine, mais je pense que la linguistique est déjà une technoscience. Et qu'en réalité, ces phénomènes de technicité dans la construction des représentations scientifiques sont valables dans toutes les pratiques scientifiques. Donc voilà, c'est en ce sens-là que je voulais dire que ce que vous décrivez sur... le rôle de la technologie dans les nanosciences, en réalité, pour moi, il est vrai, en fait, dans tous les phénomènes cognitifs. Maintenant, il est évident que là, on a affaire à un cas d'instrumentation très spécifique, puisqu'en fait, il nous donne à voir ce qui ne peut pas se voir, mais comme vous l'avez dit, qui peut se comprendre. Et évidemment, dans un sens très différent du fait que si je prends, par exemple, un oscilloscope et que j'enregistre quelqu'un qui est en train de parler, il n'y a pas de doute que je vais observer des phénomènes qui correspondent à une référence. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je peux croiser toutes sortes de phénomènes d'observation qui vont me permettre de consolider mon observation et de finalement pouvoir l'établir dans une certaine, entre guillemets, objectivité. Dans le cas des technologies transformationnelles, on est confronté à un autre type de problème. On a une performativité tout à fait nouvelle, ce qui fait qu'en effet, pour moi, ce sont des cas limites dans le processus de grammatisation dont je parlais. Mais il n'empêche que si ces cas limites sont possibles, c'est parce qu'il y a déjà de la performativité dans toute description scientifique, telle qu'elle passe toujours par un processus de grammatisation. Voilà la proposition que je vais soumettre.
Est-ce qu'il y a une forme variante?
C'est la question que pose.
D'accord. D'accord.
C'est ça. Oui,
personnellement. Parce que moi, je cherche toujours changement et spécificité.
Oui.
En quelque sorte. Alors, c'est-à-dire que tout n'est pas toujours pareil.
Je suis bien d'accord.
Donc, ce que tu dis m'intéresse énormément et je peux retenir cette hypothèse et chercher l'expression locale. Hein? Est-ce qu'on peut poser la question, est-ce que ça représente une forme extrême? J'avais ça en tête quand tu parlais.
Personnellement, je crois que oui. Je crois qu'il y a une...
Tu crois ça?
Je crois ça. Mais je le dis de manière absolument intuitive. Je n'ai absolument pas construit théoriquement
cette affaire.
Ça me semble, est-ce que tu disais ça un peu?
C'est ce que je pense, en effet.
Il y a quelque chose dans ce que disait Terry qui faisait vraiment penser à tes écrits, c'est quand il faisait référence au fait que c'est Hollywood qui a investi énormément dans le développement d'imagerie. Alors là, je me suis dit, oui, là, pour le coup, Bernard doit être content, parce que ça confirme un certain nombre de ses hypothèses.
Il va dire c'est Disney. Parce que la grande dramatisation du visible, c'est Disney.
C'est Disney, c'est les studios de Disney.
Absolument.
Ah oui. Mais bon, j'ai pas eu ces détails.
Thierry, est-ce que je peux te poser encore une question? Tu as fait état de quelque chose qui est que donc depuis 1990, il y aurait un rythme de multiplication par deux tous les 19 mois des publications sur les nanos environ. Donc déjà, c'est amusant, c'est que ça nous fait, il y avait une loi de Moore, on a une loi de Chine maintenant. Tu as publié dessus?
C'est bien.
Il faut. Tu peux, exactement, c'est quasiment la même. Ouais. Et on peut laisser ton nom dans l'histoire avec ça.
Okay, merci.
Et en plus, ça fait un article très très rigolo où on peut prédire la disparition de la science dans la nanoscience à très courte échéance avec une telle loi.
Bah, oui, il n'y a pas de Dieu.
Qu'est-ce qu'on attend?
C'est ce que veut tout le monde.
Hein? Bah, en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas. Il y a des gens qui vont avoir du mal à se reconvertir, parce que ce que ça fait apparaître, c'est qu'il doit y avoir un phénomène, je veux bien, d'inflation du domaine, mais il y a un phénomène, en fait, de reconversion massive, c'est ça qui se cache derrière ça. Donc il y a des gens qui doivent dépenser un poids psychique et intellectuel différent, suivant leur capacité plus ou moins aisée, à partir de leur domaine de départ, à se reconvertir. Oui, c'est-à-dire que, d'abord, il y en a à qui ça ne fait pas plaisir d'adopter le mot nano, et puis d'autres, de toute façon, leurs bases intellectuelles de travail sont très éloignées, ils vont... Et on voit mal comment la personne qui travaille sur la reproduction des canards va pouvoir se...
L'autre jour, j'ai parlé avec un gars qui transférait les ces petits fleurs jolies là, comment on dit,
les feuilles. Non, les feuilles gelées, oui.
En tout cas, d'une saut à l'autre, et lui, il était classé nanoscientifique dans un laboratoire. Officiellement, par le CNRS, classé à nanoscientifique. Il était sur la liste des nanoscientifiques, susceptibles de recevoir le sous nanoscientifique et publié en nanosciences. Tu imagines?
Ouais.
C'est délirant, ça.
Ouais.
Hein? Oh, j'ai oublié le nom de ces fleurs.
Ah, c'est des fleurs. D'accord.
Je...
Vas-y,
bonjour. Bonjour. Une question de novice. J'avoue, je comprends vraiment pas la phrase qui a été prononcée à la fin, qui vient d'être évoquée là. Il n'y a pas de théorie, il n'y a que de la modélisation sans théorie. Moi, avec ma culture de sciences classiques, je comprends pas comment il peut y avoir une modélisation sans théorie. Modèle qui ne serait pas inscrit dans une théorie.
Pourquoi j'ai pu faire ça? Pourquoi j'ai pu dire ça?
Oui. Non, mais je comprends. Oui, il faudrait.
Oui. Bah, je dis ça à partir de deux éléments d'information. Le premier élément d'information, c'est mes enquêtes. On demande aux gens d'indiquer l'importance d'une échelle de 0 à 3 de différents composants, ingredients, dans les travaux de nanosciences et nanotechnologie. OK? Et la théorie est quasiment, mais très peu mentionnée. Et quand je veux dire très peu, il y a très peu de personnes et qui le mettent à 0 ou 1. C'est quand même un peu singulier, j'imagine.
Oui, mais...
Bon, je les livre comme ça.
Est-ce qu'ils expliquent?
Non. Non, ils expliquent. Mais pour la modélisation, c'est pas le même score.
Est-ce que tout modèle, quel qu'il soit...
C'était pas si important. C'était beaucoup plus important, mais même le modélisation, c'était pas toute modélisation. Il y avait les gens qui l'ont même pas... Il y avait beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas non plus. Très bas. D'autres choses dans les travaux de Abrams que j'ai mentionné très très vite sur le chapitre oublié sur la simulation numérique, il écrit spécifiquement qu'il met de côté les théories, il utilise uniquement ce qu'il considère les modèles. Donc, on peut considérer toute background knowledge comme théorie, mais ça affaiblit les notions de théorie à un tel point qu'il n'y a pas. Quand on parle de théorie, on parle de mobilisation des nombres d'énoncés opératoires pour résoudre un problème. Hein? On parle pas de troisième loi de thermodynamique, quoi.
Hein? Non, mais du cadre.
On parle d'une composante théorique, vraiment.
Bernard Stiegler.
Ouais, sur ce point, j'ai un point de vue intervenant aussi, mais je pense que la théorie, d'une manière ou d'une autre, en tout cas telle qu'on, jusqu'à maintenant, on en emploie le concept, ne peut pas se couper d'une ontologie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on théorise quelque chose, on ne fait pas simplement un modèle, on pose que ce modèle renvoie à une loi absolument universelle. On pose un horizon d'universalisation potentielle en droit actuel. En fait, potentiel, mais en droit actuel. Et je pense que... Moi, j'avais posé ces problèmes précisément à propos de la linguistique. C'est-à-dire que je pense qu'une théorie complète du langage est absolument impossible. Tout simplement pour la raison de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que j'individue le langage en le théorisant et donc... Et je disais une théorie stricto sensu, au sens où, par contre, la logique de Port-Royal est une théorie du langage. Aujourd'hui, il me paraît plus tout à fait possible. J'avais aussi travaillé sur ce problème en biologie, où j'avais essayé de montrer que, jusqu'à la fin des années 60, quand la biologie moléculaire essaye d'administrer une théorie néo-darwinienne, stochastique, du vivant, elle se construit, en tout cas, dans le corpus des Français Monod et Jacob qui ont développé cette théorie, essentiellement pour établir la différence que c'est entre le vivant et le non-vivant. Donc elle cherche à dire ce que c'est que le vivant. Et ça, c'est la biologie, c'est-à-dire le logos du bios. Hein. Le logos du bios, c'est ce que dit ce que c'est que est être vivant. Le problème, c'est que lorsqu'elle qu'elle devient la biotechnologie, eh bien, elle casse la différence entre le vivant et le non-vivant. Puisqu'elle fait intervenir le non-vivant pour transformer le vivant, et elle rend le vivant de plus en plus discrétisable, justement, grammatisable, etc. Et donc, elle met complètement en crise toute possibilité d'une ontologie du vivant. Ça devient un phénomène de devenir. C'est pour ça que Simondon est si important, d'individuation. Dans tous les cas, on a affaire à de l'individuation. Et à chaque fois qu'on a affaire à de l'individuation, le modèle ontologique ne peut plus fonctionner. Alors, Simondon lui appelle le modèle ontogénétique. Personnellement, je pense qu'il faut carrément abandonner le mot onto. Moi, je pense qu'il faut carrément, il faut passer du côté de Nietzsche de la question du devenir. Et plus exactement des processus. Et je pense que là, employer le terme de théorie, là où on poserait que la théorie est elle-même un moment du processus, c'est-à-dire une phase du processus, ça devient très difficile de garder le mot de théorie, parce que théorie vient de théorein, et le théorein, c'est la contemplation des essences, c'est-à-dire des êtres, de ce qui est sur un autre plan que le plan du devenir. Voilà, et c'est pour ça que je pense que c'est pas un hasard que le mot modèle remplace progressivement le mot théorie.
Il y a aussi une cause, probablement épistémologique à cela, qui est qu'on est sur un domaine qui est à cheval entre deux ensembles théoriques qui ne sont pas entièrement compatibles, qui sont qu'on a ces trois étages, c'est-à-dire qu'on a l'étage de la mécanique classique, qui s'intègre dans tout ce qui va des moyennes aux grandes échelles. On a la toute petite échelle de la mécanique quantique, aux échelles quantiques, et entre les deux, on a ce type de théorie type thermodynamique ou statistique ou tout ce qu'on veut, qui sont des choses qui en fait sont pas vraiment fondées d'ailleurs sur une ontologie. Et donc on peut bricoler avec deux, mais on n'arrive jamais à tenir les trois en même temps. Et donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on est condamné à cette sorte de patchwork.
Ça nécessite pas.
En plus de ça, il y a toute cette idéologie qu'on a vu passer, scientifique, qu'on a vu passer de nombreuses fois au labo, qui est celle des gens qui maintenant prennent la simulation informatique, admettent de prime abord son équivalence avec modélisation. C'est-à-dire pour qui la différence entre ce qui est de l'ordre de la modélisation et ce qui est de l'ordre de l'imitation,
simplement, n'existe plus. Et où tout est écrasé. Alors il se trouve que, en réalité, cette frontière perdure à l'intérieur même du champ. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui continuent de faire la différence et d'autres qui ne la voient plus. Voilà. Mais il y a des gens pour qui les automates cellulaires, c'est la réalité même du processus, et d'autres qui disent, c'est bien gentil ton machin, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Et donc, ces deux éléments-là, la fracture plus cette nouvelle culture simulationniste, font qu'on est dans ce domaine de la modélisation sans théorie ou avec plutôt des bribes de théorie, oui, avec quelque chose qui est fondamentalement hétérogène. Voilà. Et le théorique en général étant de toute façon dans une certaine crise au niveau de la science.
On est
d'accord avec ça. D'une certaine manière, il y a toujours eu d'ailleurs des champs, la biologie a pu en être un, ou la chimie, où les gens n'étaient pas moins théoriques que les physiciens, simplement ils prétendaient, nous on est des purs expérimentaux, venez pas nous ennuyer avec la théorie. Et c'était une volonté de se défendre contre ce qui était perçu comme éventuellement un impérialisme des physiciens ou de défendre l'autonomie du champ. Hein. Donc il faut faire très attention aussi avec les déclarations. Le fait que ces gens disent « nous, on n'a rien à faire avec la théorie » ne veut pas dire qu'ils ne mobilisent pas des appareillages théoriques très très puissants à l'occasion, surtout quand ils vont être en rivalité cette fois-ci avec un concurrent. Là, à ce moment-là, on va les voir ressortir leurs beaux oripeaux de théorie sans problème.
Pour reprendre sur cette question de grammatisation qui me paraît essentielle, il y a un domaine sur lequel on reviendra dans une prochaine séance qui est celui des machines moléculaires artificielles. Et je pense que là, on est complètement dans cette idée d'une grammatisation qui est avant tout technoscientifique, puisqu'on fabrique un dispositif qui va effectivement permettre d'introduire une intelligibilité dans un flux ou qui va permettre d'apprendre des choses nouvelles sur la nature. On produit de la connaissance à travers de la technique, finalement. Et on fait fonctionner ces machines avant tout comme des machines de connaissance, et non pas du tout comme des machines destinées à être utilisées pour des usages précis, etc. Ce sont avant tout des machines de connaissance. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'on est dans une grammatisation, mais qui, premièrement, est un outil permettant de réouvrir une boîte théorique, qui est celle de la mécanique quantique. Puisque si j'ai bien compris ce que disent des gens comme Christian Joachim, c'est que on peut de nouveau mettre les mains dans le cambouis et réouvrir sur un plan de physique fondamentale, de théorie, le niveau quantique, et apprendre des choses nouvelles et remettre peut-être en question des fondamentaux de la mécanique quantique. Et donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant, parce que on n'est plus dans une technoscience qui signifie un couplage entre le laboratoire et l'industrie, ou le fait que la science est vouée avant tout à la fabrication d'objets techniques, utilitaires, etc. Mais on est dans une technoscience où la technique produit ou permet de produire, produit de la connaissance, permet de réouvrir des questions théoriques fondamentales. Et ça, je crois qu'on est dans une sorte de... Alors, phénoménotechnique en un sens différent de ce que disait Bachelard, puisque ce n'est pas de l'instrumentation, ce sont vraiment des dispositifs, des machines qu'on fait fonctionner. Et je crois que c'est une grammatisation qui me paraît intéressante parce que elle ne remet pas en question le fait qu'on se confronte à la résistance du réel, à une matière qui résiste. Et c'est parce qu'il y a une résistance du réel au fonctionnement de la machine, parce que ça ne marche pas finalement, qu'on va apprendre des choses. Et je pense que ça, c'est un domaine, enfin, moi, je le trouve assez fascinant. Peut-être qu'il soit assez confidentiel, d'ailleurs, celui des machines moléculaires. C'est assez confidentiel dans le domaine des nanosciences et nanotechnologies. Mais je crois qu'il est très instructif sur ce rapport entre science et technique, sur le rapport à la théorie qui se met en place à l'intérieur de ça. Et d'ailleurs, la question que je posais tout à l'heure, c'est en pensant à des petits films sur des machines moléculaires. Et que peut-être elles ont un statut à part, ces machines moléculaires, et les représentations de ces machines-là ont un statut à part dans cette économie de l'image dont tu as parlé.
Et de la théorie.
Et de la théorie, bien sûr.
Et de la théorie. Parce que ça. Mais sur le plan pratique, qu'est-ce qu'ils pensent ces chercheurs?
Alors, soit il y a les machines moléculaires en solution, donc ce sont des chimistes qui font à partir de ce qu'on appelait la chimie supramoléculaire, les molécules entrelacées, type caténane, rotaxane, donc des anneaux entrelacés, ou alors un anneau sur une tige. En fonctionnalisant le nombre de valences d'un ion qui est attaché à une partie de la molécule, en gros, en changeant la polarité de la solution, tu vas avoir un bistable. Ou en oxydant, en réduisant, etc. Tu vas avoir un bistable. Ça, c'est vraiment de la chimie. Il y a les démarches qui sont couplées avec les physiciens des surfaces qui utilisent l'outil STM. Soit ils travaillent à froid et donc ils déposent les molécules et ils jouent avec. Soit ils les attachent et ils observent comment l'agitation, les, et sur le plan bouger, etc.
Et sur le plan théorique.
Et sur le plan théorique, on essaye de comprendre le fonctionnement d'une petite machine. Qu'est-ce qu'un mouvement de rotation? Qu'est-ce qu'un déplacement? Est-ce qu'on peut comprendre ça comme les mouvements mécaniques classiques? Et ils font aussi beaucoup d'analogies avec les machines du vivant, les machines protéiques.
Il y a un très bel exemple, arrête-moi si je dis une bêtise, Andrew qui travaille au laboratoire de photophysique moléculaire, Arcet, et donc un très bel exemple qui est une molécule, donc un bistable, une molécule qu'on dépose sur une surface, et l'un des intérêts majeurs de cette manipulation, donc fabrication d'un dispositif technique et étude du fonctionnement de ce dispositif, c'est par exemple de comprendre les interactions entre la molécule et la surface, c'est de comprendre des choses en matière de dynamique moléculaire. Quand on applique un pulse sur un des deux phényles du bistable, étudier le comportement que ça va avoir, ça va nous apprendre des choses. Pourquoi est-ce que le mouvement est lent et non pas rapide? Est-ce qu'il y a une interaction entre la molécule et la surface qui explique cette lenteur alors qu'on s'attendrait à avoir un mouvement beaucoup plus rapide? Donc moi ce que je trouve fascinant, c'est qu'il y a un vrai enjeu théorique au travers de la fabrication et de la mise en fonctionnement d'un dispositif qui est un dispositif technique. Qui est une machine. Non pas au sens où elle a une utilité pratique, mais au sens où elle permet d'apprendre des choses. Oui, et ce qui est très intéressant, c'est que l'image à laquelle tu as donné un statut un peu à part, hein, celle des diagrammes pushing, pulling, etc.
Slide 19.
Voilà, slide 19, c'est précisément, ce sont des représentations qui sont liées à ce qu'on appelle une machine moléculaire, c'est-à-dire dimère que l'on pousse avec une pointe STM pour voir effectivement comment ça se comporte sur la surface.
Ce que tout passionnant, c'est le côté théorique, mais je n'ai pas encore tout à fait saisi les composantes théoriques, tu vois ce que je veux dire. Il me faut un type de liste d'éléments qui sont rigoureusement théoriques. Est-ce qu'il s'agit de la théorie microscopique? Sur quel niveau, quoi? Quantique? Tu vois ce que je veux dire?
Oui, oui.
Mais le projet est fascinant. Le projet, je suis...
Joachim, en tout cas, est très clair. Joachim, qu'on entendra dans une prochaine séance, pour lui, c'est vraiment au niveau de la mécanique quantique. Voilà, je fabrique des choses...
Ouais, ça, c'est merveilleux.
Qui vont me permettre, enfin, je l'espère, qui vont me permettre de réouvrir la boîte de la mécanique quantique et d'essayer de...
Il vient quand, lui?
Il vient, en principe, au mois de mai.
Ok.
Voilà.
Allez, moi aussi.
Mais bon, Gérald Dujardin...
Est très intéressant.
Gérald Dujardin, qui vient en avril, qui donc travaille au sein de ce laboratoire,
oui.
Je pense à un peu la même approche, avec les mêmes ambitions, en théorie.
Ouais, c'est beau.
Et je trouve ça facile.
Je trouve ça beau.
Bon, on va peut-être s'arrêter là. Okay. Merci en tout cas. Donc là, la fois prochaine, on accueillera Jean-Marc Lévy-Leblond. Donc pour prolonger un peu cette réflexion sur les représentations de la matière, justement, à cette échelle, avec ces différents niveaux, comment se positionner par rapport à ces différents niveaux, le classique, le quantique.
Merci.